Nous sommes trois professionnels de l'éducation dans le sud de l'Ontario.
Mylène Brassard,
Vicky Fauteux
et Jennifer Davies. Puisque nous ne sommes plus titulaires, nous n'avons pas de classe.
Quoi?
OK. En effet, nous avons...
Toute la classe.
Nous allons vous proposer des épisodes sur des thèmes ponctuels en éducation, tels que la planification,
l'évaluation,
l'intégration de la technologie,
la persévérance
et bien plus encore.
Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de la discussion sur notre page Facebook.
Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Toute la classe, une initiative du Conseil scolaire Viamont. Alors, pour commencer, une petite excuse de notre part parce qu'on a pris une petite pause depuis le dernier épisode. Mais cette fois-ci, nous sommes de retour avec un sujet de tonnerre. Nous allons parler, explorer, discuter du modèle SAMR pour l'intégration de la technologie.
Wouhou!
Yay! Jen!
Oui!
Mylène!
Hello!
On va commencer par la question de base. Qu'est-ce que c'est le modèle SAMR?
Roche, papier, ciseaux, qui y va en premier?
Oh!
Ils ont eu la même chose.
Ben, moi, j'ai mis un iPad. Et le papier, l'iPad, ça bat tout. Alors, je vais commencer.
Vas-y.
Alors, c'est un encadrement vraiment de l'implémentation de la technologie en salle de classe qui commence avec l'utilisation de base, qui est la substitution.
Ça, c'est le S dans le SAMR.
Le S dans le SAMR. Alors, c'est un acronyme, comme on en a en masse dans l'éducation.
Oui.
Augmentation. Et on va parler un peu plus tout à l'heure des définitions de ces termes-là. Alors, substitution, augmentation, modification et redéfinition. Dans les deux premiers paliers, on parle vraiment de la fonctionnalité de l'outil qu'on utilise. Et dans les deux autres paliers, le M et le R, on parle d'une transformation de la pédagogie. Alors, je ne sais pas, Mylène, est-ce que tu aimerais en parler un petit plus du SAMR?
Bien, en fait, c'est ça. C'est exactement ça, la structure. Et du moment qu'on met un iPad ou un ordinateur dans les mains d'un élève, on est en train de se voir ou de se situer à travers le modèle SAMR. Tout dépendant quelle est mon intention derrière l'utilisation de les technologies, je vais être dans une de ces lettres-là, je devrais dire, mais un de ces aspects. Un de ces paliers-là, soit le S, le A, le M et le R. Et le modèle est construit, on part de la gauche pour aller vers la droite. Alors, plus on s'en va vers la droite, plus on est en train d'utiliser la technologie pour transformer la pédagogie, comme Jen a dit. Mais il y a des fois où mon intention, ben c'est juste de faire de l'exercisation de la multiplication, où là, c'est correct de rester dans le S. Alors, okay. C'est mon intention qui va aller toucher... C'est mon intention qui va aller choisir où est-ce qu'on s'en va dans tout ça. Mm-hmm.
Alors, je dirais aussi, on en a parlé avant de commencer, que lorsqu'on utilise la technologie... Il peut être très difficile de rester dans la substitution. Parce que dès qu'on utilise un outil technologique, d'habitude, ça va nous ajouter quelque chose qui va faire en sorte qu'on sera dans l'augmentation. Mm-hmm. Alors, comme l'exemple que tu viens de donner, si j'ai une tablette, puis mon élève pratique ses tables de multiplication, il est fort probable qu'il va y avoir une autocorrection. Alors, il va y avoir une rétroaction immédiate qu'il n'aurait pas s'il s'exercisait sur une fiche de pratique. Et en plus, il y aura probablement un tableau, un profil qui va suivre l'élève. Alors, dès que moi, je reprends la tablette dans beaucoup d'applications, je vais voir que c'est mon petit Ali qui s'est créé un compte et je peux voir qu'est-ce qu'il a encore besoin de travailler. Alors, il y a déjà une augmentation. Puis, l'autre exemple qu'on utilise souvent, c'est Word. Alors, au lieu d'écrire mon texte à la main, je l'écris dans Word. Et souvent, on dit que c'est une substitution, mais ça ne l'est pas. Parce que dès que tu commences à taper dans Word, ça va être souligné si tu fais une erreur. Ça va changer, ça va t'indiquer s'il y a un problème d'accord. Alors, déjà, il y a d'autres outils, d'autres fonctionnalités qui sont rajoutées.
Tout à fait. Mais tu vois, la substitution, je le vois surtout pour les petits, là, quand, ben c'est ce que j'ai vu, là, mais mm-hmm. Au lieu de dessiner, de faire du coloriage sur papier, on va faire du coloriage sur le iPad. Alors,
et ça, c'est exactement ça, c'est substitution. Uniquement substitution. L'autre exemple serait de tracer des lettres sur le iPad. C'est ça, on ouais. voit souvent des applis comme ça au préscolaire ou en première année. Et ça, si ça ne les autocorrige pas, ça ne tient pas compte de leur progrès. Oui. C'est de la substitution.
Parce qu'en fait, la tâche est exactement pareille, mais c'est juste qu'on a substitué le papier-crayon avec un outil technologique.
Ouais. C'est ça. Mais c'est il est très, très difficile de trouver des exemples de pure substitution, à mon avis.
Et c'est donc la raison pourquoi Mylène avait dit, c'est surtout au niveau des petits qu'on trouve souvent
des substitutions. J'aurais tendance à penser, mais je veux dire, tout dépendant de qu'est-ce que tu fais de l'application. Si je prends l'application, puis que ça fait juste changer du papier crayon versus le document en soi, ben, le iPad, ben, je me dis, à quoi bon de mettre le iPad? Parce que ça a coûté X centaines de dollars, sachant que le crayon coûte 33 cents.
Mais l'autre exemple de substitution serait de lire un document en ligne ou sur une tablette, sur un laptop, au lieu de lire un document imprimé. Mais là, je me dis qu'on n'ajoute pas de la valeur parce qu'il y a des moments où on ne veut même pas être dans la matrice. On veut rester papier-crayon parce qu'on sait que même nous, lorsqu'on donne des formations, si on demande aux gens de lire sur un écran, ils lisent moins, ils lisent moins bien, ils retiennent moins, ils ont de la difficulté à retrouver l'information. Alors, parfois, la substitution n'est même pas la bonne
approche.
Mais oui. Là, tu as parlé de matrice. Matrice, c'est aussi parce que le modèle sommaire, du côté CFORP, qui est le Centre francophone ontarien des ressources pédagogiques, eux l'appellent la matrice de l'intégration des technologies, où c'est la même chose, c'est les mêmes idées au niveau de la substitution, de la modification,
la redéfinition.
La redéfinition, mais que eux, c'est intégré et ça s'appelle la MIT, la matrice d'intégration de la technologie. Et ça, si vous voulez faire vos curieux, allez voir en ligne sur le site du CFORP, vous avez même des outils pour aller vous situer par rapport à où est-ce que vous vous situez dans le modèle et de voir en fonction de ce que je propose aux élèves dans une tâche X où je me trouve.
Et ça, on pourrait le mettre sur notre page Facebook pour que les gens puissent aller le voir, parce que c'est très intéressant. Alors là, on vient de parler beaucoup de substitution et augmentation. Avant de passer à la prochaine question, je pense qu'on devrait décortiquer un peu plus la M et la R, la modification et la redéfinition.
Le M, c'est quand je suis en train de modifier une tâche, et le R, c'est quand je suis en train de rendre une tâche qui, sans la technologie, n'aurait pas pu être faisable. Alors, à ce moment-là, si je parle, je ne sais pas moi, d'interviewer quelqu'un à distance sur un sujet, je ne sais pas moi, comme on avait fait dans le passé, Jenny et moi, on avait fait un projet sur les Skype mystères, où les enfants entraient en relation avec des professionnels pour leur demander des caractéristiques de leur métier, pour voir si ça, c'est un métier qui pourrait les intéresser. Mais ça, sans Skype, c'est pratiquement infaisable.
Oui.
Parce que dans la région où on était, le français n'est pas si présent. Et mais là, de discuter avec un conducteur de train à Montréal, avec un médecin à Québec, alors ce qui fait que la distance entre les ressources ou le contenu francophone et nos élèves est réduite.
Et aussi que les élèves ont pu visiter le hangar où travaille ton frère.
Oui, absolument.
C'est comme ça, c'est être sur place quelque part où ça aurait été impossible.
Absolument.
Je voulais aussi parler du fait que parfois la ligne est mince ou la distinction est floue entre la modification et la redéfinition. Alors, tu sais, parfois, on peut discuter longuement de est-ce que quelque chose est modification ou est-ce que c'est redéfinition. Mais pour les deux, on est vraiment en train de transformer la pédagogie. C'est des choses que, moi, quand j'étais dans la classe de deuxième année de Mrs. Herbshot à Northridge Public School, j'aurais jamais pu faire.
Mais des fois aussi, ça se peut que tout dépendant dans la tâche ou le projet qu'on travaille, il y a un aspect de la tâche où on est en redéfinition, qu'il y a un aspect de la tâche où on est en modification, puis qu'il y a un aspect de la tâche où on est en augmentation. Ooh. Alors, tout dépendant, qu'est-ce que je donne à nos élèves ou quelle est la tâche à produire, ça se peut que je sois dans un côté ou de l'autre du modèle.
Et je pense que ça, c'est un point qui est très important à retenir parce que même dans la même tâche, on devrait le regarder d'une différente façon. Peut-être, comme tu avais dit tantôt, peut-être l'appui à l'élève est à un certain niveau dans la matrice. Et par contre, dans un autre aspect de, de ta tâche, soit une augmentation ou une modification ou une redéfinition.
Ça, c'est très intéressant. J'avais pas pensé à ça. Puis, plus on intègre la technologie, plus la technologie... Disons, on n'est même pas en train d'intégrer la technologie parce que c'est devenu tellement un outil de tous les jours et surtout dans le vécu de nos élèves qui sont nés en 2013, les plus jeunes, 2014.
Que, sachez que maintenant, si, pour être majeur, il faut être né en 2000.
Ouch! Alors, plus on voit la technologie partout dans la salle de classe, on va entrer dans une salle de classe puis on va voir toute la matrice, tu sais, en même temps si on parle à différents élèves.
Oui, absolument. Puis, tout à l'heure, parce que quand tu parlais de l'appui, on avait une discussion juste avant de commencer l'enregistrement parce qu'on se posait la question, OK, est-ce que... telle situation, et la situation dont on est question, c'est comment utiliser une application de réalité augmentée pour que l'enfant puisse aller scanner des images dans la classe et de voir l'enseignante qui lui fait des rappels sur la leçon pour X et Y, là, pour il y avait plein de leçons. Puis là, on s'est dit, est-ce qu'on est en train de modifier, augmenter ou redéfinir? Et nous trois, on a eu des arguments différents.
Absolument.
Alors, c'est intéressant de voir que c'est pas coupé au couteau, la définition, comme R, c'est absolument ça, M, c'est absolument ça, mais que tout dépendant comment tu le regardes, qui le regarde et quelle est l'intention de la personne qui regarde, le résultat va être différent.
J'aime beaucoup ça. C'est vraiment intéressant parce qu'on ne veut pas juste se limiter à une chose non plus. C'est en sachant que, oui, c'est vrai que c'est un modèle, mais qu'on peut vraiment être vraiment fluide en disant que comment est-ce qu'on peut intégrer tous les composants de la matrice dans mes tâches aussi.
Oui, puis ça va changer aussi, puis ça va continuer de changer parce que, voilà quelques années, cette intégration de la technologie, c'était les ordinateurs.
Desktop en arrière de la classe.
Puis on était donc contents. Puis là, whoops, on a changé vers tout ce qui était plus mobile, qui était plus portable. On a eu les laptops, on a eu les iPads, puis on était donc contents. Puis souvent, notre première question, c'est, OK, quel jeu on va jouer? Mais l'idée, c'est que, OK, c'est bien de jouer à des jeux sur le avec les appareils, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus que de jouer?
Absolument.
Mais là, tranquillement, on s'en va vers tout ce qui est encore plus petit, encore plus portable et encore plus fréquent dans les salles de classe, les téléphones intelligents de nos élèves, que les élèves arrivent avec des appareils déjà. Nous, on est chanceux à Viamonde, on a le système que chaque élève apporte leur propre téléphone apporter votre appareil numérique pour que les élèves puissent se brancher sur nos réseaux. Oui. Mais OK, mais ça, on en fait quoi avec ça? Comment est-ce qu'on est capable d'introduire, d'intégrer ça dans ce qu'on propose aux élèves? Parce que là, ça a toute une autre portée. Oui.
Et je crois que ça devient très naturel pour nos élèves maintenant parce qu'on leur a proposé plein d'applications, des applications de création de contenu qu'on utilise beaucoup comme Spark Video, comme ThingLink. D'autres comme les stop motion, tout ça que les élèves peuvent utiliser pour démontrer leurs apprentissages. Et maintenant, c'est eux qui... Tu sais, ils ont appris quelque chose, ils veulent expliquer quelque chose. Ils savent que j'ai, tu sais, toute une gamme à ma disposition. Puis les élèves de première, de deuxième année disent, ben moi, je vais faire un Spark Video à propos de ça et je vais le mettre sur CISA, puis l'enseignant va le voir. On peut le mettre sur le TBI, toute la classe va le voir. Et mes parents vont le voir.
Oui, et c'est intéressant parce que il y a très longtemps, on avait parlé de l'évaluation, comment on voulait faire la triangulation, mais comment est-ce que la triangulation peut, tu sais, aller avec le modèle SAMR aussi? Oui, parce que là, il y a différentes façons. Comment est-ce qu'on peut modifier l'évaluation, comment est-ce qu'on peut augmenter l'évaluation, puis comment est-ce qu'on peut redéfinir l'évaluation, puis ça combiné avec un autre outil qu'on a beaucoup parlé, qui est la triangulation, je trouve que c'est vraiment...
Puis ça,
oui, absolument, puis là, ça donne vraiment un portrait qui est vraiment complet de l'élève, puis juste de sortir la boîte un petit peu, de juste penser un petit peu comment aller plus loin, je pense que c'est vraiment intéressant.
Moi, j'ai commencé à enseigner, ça fait 10 ans maintenant, puis déjà là, tu sais, j'ai l'impression que c'était hier, mais il y a eu énormément de changements, mais je me souviens, j'avais mon... Puis 10 ans, là, c'est pas 20 millénaires.
Non, pas du tout.
J'avais mon tape à cassette.
Oui.
Pour enregistrer mes élèves. Mais le tape à cassette, aujourd'hui, là, il y a plein d'autres versions, parce que là, quand on a des conversations avec les élèves, ce qui est absolument essentiel pour l'évaluation, mais un coup que la conversation est finie, là, c'est disparu dans le temps. Mais là, avec la technologie, ça a l'air comme on est en train... Je sais pas si je peux dire qu'on est en train de redéfinir l'évaluation, mais de toute évidence, on est en train de la modifier.
De la modifier, absolument.
T'as pas la recette?
Non, mais je pense à ça, puis je pense qu'on peut facilement redéfinir l'évaluation, puis on est en train de le faire lorsqu'on demande aux élèves de nous démontrer autrement ce qu'ils ont appris.
Absolument.
Et puis, si, je pense que ce serait bien d'aller dans le concret ici et de donner des exemples de qu'est-ce qui serait dans la transformation, dans la modification ou redéfinition, qui serait une tâche d'évaluation. Tu sais, comme je pense à si un élève, quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire sans la technologie, créer un OneNote ou un autre document interactif où l'élève a des liens à des vidéos qu'il ou elle a impliquées, qu'il ou elle a faites lui-même, des vidéos YouTube qui démontrent un certain apprentissage, d'autres textes, des liens à d'autres textes, tu sais, des hyperliens, où on crée un document qui est interactif, qui démontre pleinement tous les aspects d'une grande question qu'on a posée aux élèves.
Et la démarche,
aussi la collaboration. Alors, lorsqu'on crée, disons que les élèves créent un OneNote, on leur a posé une question sur une grande idée, sur un concept, puis ils sont en train de collaborer, et peut-être non seulement avec des gens dans la classe, mais des gens dans d'autres classes, dans d'autres écoles, avec des professionnels à l'Antarctique, sur Skype, tu sais, si la question, c'est à propos de l'impact humain sur l'environnement, puis ils font un Skype avec un expert, puis ils s'enregistrent, et ça aussi, ça fait partie de leur portfolio, est-ce que moi, avec mon morceau de papier ligné puis mon crayon, en 1960 et quelque chose, est-ce que j'aurais pu faire ça?
Non.
Puis
c'est drôle parce que ça me rappelle de quand j'étais au secondaire, on faisait des expos sciences, puis tout le monde arrivait avec une maquette, tout le monde arrivait avec un tableau de présentation avec les trois côtés là, qui se plient. Puis là, donc, nous autres, comme par exemple l'exemple que tu viens de donner, de faire soit un fichier OneNote ou de faire une présentation ou de soit faire la réalité augmentée, on vient d'appliquer le modèle à un genre de présentation qui est vraiment traditionnel.
Oui,
c'est ça.
J'ai vu dans une salle de classe il y a 2 ans, les élèves avaient fait quelque chose de très, très traditionnel. Ils avaient tous choisi un pays du monde. Puis il y avait un élève qui m'avait dit, je lui avais parlé de son projet, puis il m'avait dit, tu sais, pour être honnête, le projet, c'était plate. J'ai pas aimé ça, j'ai lu, et son projet était à propos de l'Irlande, puis il avait écrit, la géographie, la topographie, la culture, la nourriture, tout ça. Mais il a dit, ce qui était intéressant par la suite, c'est qu'il avait ajouté une autre couche à sa présentation qui était de la réalité augmentée, où il s'est filmé, puis lorsqu'on scannait avec le iPad, à l'époque c'était avec HP Reveal, lorsqu'on scannait son projet, on le voyait. On voyait l'élève qui était devant son projet et qui expliquait chaque partie. Puis lui, il m'a dit, c'est cette partie-là que j'ai beaucoup aimée. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que je sais qu'il y a des élèves dans ma classe qui ne lisent pas très bien.
Oh, wow.
Et je sais qu'eux, ils vont mieux comprendre mon projet quand ils vont le scanner, ils vont voir ma vidéo de moi qui l'explique. Alors là, il est présent pour expliquer son projet, peu importe s'il est là ou non.
Exactement. Exactement.
Oui. Mais ça dépend. Si on pense à juste la présentation du projet en réalité augmentée. Ah, oh, cool. Mais là, l'idée, son intention, c'est d'aider comme l'accessibilité à tous à son projet.
C'est ça. Puis si on ajoute de la réalité... Qu'est-ce que je veux dire? Augmenter. Et que personne ne le regarde, ça ne sert à rien.
Non.
Mais oui. C'est comme dans le temps, lorsqu'on avait notre grille adaptée, puis on encerclait niveau 2, niveau 3, niveau 2, niveau 4, et puis on remettait le travail dans un dossier. Oui. Si ce n'est pas lu, ça ne sert à rien.
Absolument.
Alors, oui. Il faut que la technologie serve à diffuser les idées puis les opinions.
La prochaine question que j'aimerais ça vous poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour viser vers la redéfinition dans l'intégration des technologies? Mesdames.
Quand on parle de redéfinition, il y a un aspect qu'on touche beaucoup, là, c'est tout ce qui est en lien avec les compétences globales. Et celle que j'ai en tête la plus, c'est tout ce qui est citoyenneté mondiale.
Mm-hmm.
On ouvre l'élève à tout ce qui se passe à l'extérieur de la classe ou à l'extérieur de l'école ou à l'extérieur de sa communauté. Et ça, ça l'offre un pouvoir là, exponentiel parce qu'on peut avoir un impact sur tout ça qui est à l'extérieur de notre vécu direct, puis ça a une puissance incroyable.
Puis je pense qu'encore là, le mot-clé, c'est la diffusion.
Oui, absolument.
Parce que je peux avoir une opinion, je peux avoir un message important à partager et je peux créer, disons, une vidéo ou une présentation multimédia, mais si ça reste dans ma classe ou si ça reste sur la tablette, ça ne sert à rien. Mm-hmm. Lorsque c'est diffusé et d'autres gens peuvent être touchés, affectés par mon message, c'est là où, comme élève, j'ai un impact sur le monde. Et lorsque je commence à avoir une conversation avec quelqu'un, là aussi, j'ai un impact.
Oui, ça donne une voix à l'élève qui est beaucoup plus forte. Pas parce qu'on crie, là, mais parce qu'il y a des gens qui écoutent.
Le reach.
Oui, et c'est important aussi pour nous, comme membres de la francophonie, de créer du contenu francophone et des discussions francophones en ligne. Et c'est ça aussi que nos élèves peuvent contribuer à la francophonie.
Que d'ailleurs, je pense qu'on va en parler un petit peu tantôt, mais c'est comme un petit peu le podcast pour nous, parce qu'on a des bonnes idées, mais si nos bonnes idées restent dans nos têtes et dans notre petit cercle, puis on ne le diffuse pas, mais en fait, c'est triste, oui, évidemment, mais c'est comme ça qu'on essaye d'avoir un petit peu de l'influence sur d'autres personnes.
On est en train de redéfinir le développement professionnel.
Ouais, ouais. Oui,
Pardon.
Oui, vas-y, Jen.
J'allais dire, si on revient à l'idée de la diffusion, la francophonie, la voix de l'élève, j'aimerais parler juste un petit peu de certaines initiatives ou certains projets qu'on a entamés pour donner encore une fois des exemples. Alors, je pensais à notre projet Viano, qu'on a commencé et qu'on va essayer d'élargir l'année prochaine.
Expliquez-nous un petit peu.
Brièvement, là, ce que le Viano est, c'est une espèce d'espace en ligne protégé par ViaMonde. Alors, si on n'est pas ViaMonde, on n'a pas accès. Et à l'intérieur de ce document-là, on met en relation les quarantaines d'écoles élémentaires du conseil pour que les élèves puissent échanger, diffuser leurs travaux, réagir sur le travail des autres. On offre en même temps aux enseignants des pistes d'activités en salle de classe en lien avec tout ce qu'on promeut au conseil, les mathématiques en trois temps, la communication orale, les choses-là. Alors, c'est un projet intéressant.
Oui, puis ce sont toujours des questions, des activités qui portent à discussion.
Mm-hmm.
Alors, c'est jamais quelque chose de fermé, c'est quelque chose qui va permettre aux élèves de discuter entre eux, de commencer à se connaître et de développer leurs compétences en même temps.
Mais ça ne veut pas dire que, oui, c'est vrai que si vous ne faites pas partie de notre conseil, ça veut dire que vous n'avez pas accès, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas créer la même structure dans un autre type de plateforme aussi.
Oui, parce que l'idée, c'est de pourquoi limiter l'espace virtuel à la classe quand l'espace virtuel pourrait être conseil, par exemple.
Puis c'est en fait parce
avec
que...
plein de S.
Oui, classe. Parce que, en fait, nous autres, on est une communauté. On est une communauté qui s'étend sur une très grande espace, mais on est une communauté francophone.
Exact.
Absolument.
Puis, si je peux faire un petit spoiler alert ici, peut-être, c'est que la semaine prochaine, on va avoir une foire d'innovation pédagogique dans notre conseil. Puis, on espère pouvoir parler avec des enseignants pour vous donner d'autres exemples de super beaux projets qui se font Tu sais, c'est pas juste nous qui faisons des affaires intéressantes. On a plein d'enseignants qui vont, on espère, partager avec nous. Parce que je regarde le prochain exemple qu'on avait dit, mais je pense qu'on pourrait peut-être attendre puis laisser cette enseignante-là en parler.
Absolument. Est-ce qu'on pourrait appliquer le modèle Steinmeier dans la foire IP aussi? Est-ce qu'on pourrait le modifier ou le réinventer au lieu de faire venir tout le monde, de faire des Skype mystères? D'appliquer le modèle Steinmeier dans la foire IP.
Mais ça, c'est une bonne question parce que je pense qu'une question que tu allais nous poser à la fin du podcast, je vais la poser, c'est où se situerait notre podcast sur la matrice et comment est-ce que les écoles redéfinissent leur façon de faire. Alors, c'est assez méta, il y a assez de couches. On demande aux profs de faire autrement. Les directions font autrement. Alors, j'écoutais une vidéo hier soir en ligne à propos d'une directrice qui parlait de comment elle essayait de redéfinir l'évaluation de ses enseignants.
Mm-hmm.
Alors, au lieu de, tu sais, aller dans la classe avec une planche à pinces puis de cocher,
mm-hmm.
comment est-ce qu'elle pourrait faire son évaluation puis sa rétroaction d'une autre façon?
Mm-hmm.
Alors, au niveau de l'école, je sais que plusieurs de nos écoles ont des Teams, des Microsoft Teams ou au moins des classes notebook où ils font un partage de l'information de façon différente qu'avant. Puis nous, notre podcast, on en a déjà parlé que c'est une façon de redéfinir le développement professionnel, de le rendre plus accessible. T'sais, c'est comme nous, on aurait pu passer les mêmes messages dans des formations, mais on ne peut pas faire venir.
Ou on a passé déjà ces mêmes messages-là dans les formations, mais il suffit qu'il pleut, que ça sent un peu trop le poulet dans la salle, que mon esprit s'évade. Alors, si le mien s'évade, j'imagine que la majorité des gens et aussi. Alors, on est en train d'essayer de toucher les gens au moment où ils sont prêts à être touchés.
Absolument. Absolument. Alors, revenons un petit peu dans notre salle de classe. Alors, si on regarde un petit peu, pourquoi... Alors, on a parlé, on a vraiment décortiqué toutes les différentes lettres de cet acronyme. On a parlé de substitution, augmentation, modification et redéfinition. Évidemment, ce qu'on vise, c'est vraiment la redéfinition. Mais est-ce que vous pouvez avoir... On a parlé de beaucoup d'exemples, mais est-ce qu'il y aurait d'autres exemples? Comment est-ce qu'on devrait vraiment viser pour la redéfinition?
On ne vise pas toujours pour la redéfinition. Je dirais qu'en tout dépendant de quelle est notre intention, l'enfant qui a besoin, comme on parlait tout à l'heure, d'exercer sa multiplication, que ça ne vient pas de manière automatique, qui a besoin de travailler les faits numériques. Il y a plein d'applications intéressantes qui sont un peu ludiques, qui permettent ça, et que l'idée, c'est l'exercisation. On fait. Mais si cette façon de faire-là est ajoutée à toutes les autres, comme on le fait papier-crayon, on le fait en grand groupe, on le fait en jeu, on le fait sur iPad, à un moment donné, on n'aura plus besoin de le faire, ça va être acquis. Mais que ce processus-là va être nécessaire pour certains élèves. Et on n'est pas en train de faire la redéfinition, mais c'est bien quand même.
Mais comme tu avais dit aussi, Mylène, ça fait partie d'une séquence d'apprentissage. Alors, peut-être que l'exercisation fait partie de l'apprentissage. Il faut que l'élève maîtrise ses multiplications pour, à la fin, faire un projet qui est plus redéfini, qui intégrerait la multiplication. Alors, ça peut être toute une gamme où il y a des élèves qui sont en train de faire des apprentissages de base dans une salle de classe, mais il y a peut-être un autre groupe où cet élève-là va se rendre à ce stade-là aussi, où on est en train de résoudre un problème de vraie vie pour faire quelque chose d'authentique. Puis, une autre chose qu'on n'avait pas encore mentionnée, c'est l'engagement et la motivation. Puis, comment est-ce que la matrice Steinmeier peut nous aider à toucher cette motivation-là?
Absolument.
Puis, je pense que ce qu'on propose maintenant aux enseignants comme tâche finale, c'est quelque chose qui vient du vécu de l'élève. Il n'y a pas un élève à l'élémentaire qui ne veut pas être une vedette YouTube. Il n'y en a pas un.
Des fois, il y a quelques élèves que eux, c'est pompiers, là.
C'est encore mais pompier.
Pompier slash vedette YouTube.
Oui, c'est ça. Un pompier avec une chaîne YouTube.
Oui, un influenceur.
Et ça ne veut pas dire qu'il veut que tout le monde voit son visage, qu'il veut chanter, mais s'il peut présenter ses idées de façon où ça va être visionné et vu dans un contexte que lui, il connaît.
Oui.
Alors, je pense qu'on a déjà parlé de ça. On a le texte prescrit en Ontario en troisième année qui est la marche à suivre.
Mm-hmm.
Est-ce qu'un élève dans son vécu, s'il veut savoir comment faire quelque chose, est-ce qu'il va aller dans un manuel quelque part chercher une marche à suivre? Ou est-ce qu'il va aller sur YouTube?
Oui.
Parce que moi, j'ai des enfants et je peux vous dire que c'est YouTube. Alors, si on amène le projet jusqu'à le tutoriel YouTube, qui est vraiment à la mode maintenant, on touche le vécu de l'élève, on a un public réel,
mm-hmm.
et donc la motivation est vraiment, vraiment mm-hmm. accrue.
Absolument. Du moment que l'élève est au point pour avoir fait quelques projets avec toi, Jen, dans ma salle de classe, puis dans les salles de classe qu'on accompagne ensemble, mais du moment que les élèves sont responsables du contenu, l'engagement est tout à fait différent.
Mm.
Alors, il y a certaines applications qui offrent des coquilles de voici comment utiliser l'application, mais que le produit fini, c'est toi qui l'as créé de toute pièce. C'est toi qui as choisi la musique, le fond de décor, le peu importe. Alors, ça fait que ça a un tout autre engagement, surtout du fait que ce produit-là, après, peut être diffusé.
Mm-hmm.
Alors, tout dépendant, c'est quoi ton intention? Est-ce que c'était pour, je sais pas moi, sauver les tortues de mer ou réduire les déchets ou peu importe? Ben là, on sait que le produit fini a un impact sur la communauté.
Ouais. Mm-hmm. Mais même, c'est une des présentations pour la foire d'innovation, avec laquelle j'avais aidé, c'était des élèves de 4, 5, 6 qui devaient écrire des récits de divers genres. Et dès le début, les enseignants, il y avait deux enseignants impliqués, leur avaient dit, tu sais, à la fin, vous allez créer une vidéo. Puis c'est Alex Genet et Marie-Christine Côté de l'école
Allô?
L'Harmonie Allô? À Waterloo qui avaient vu que les élèves, ceux qui écrivaient, étaient plus détaillés, plus intéressant parce qu'ils avaient en tête, il faut que je le rende visuel.
Mm-hmm.
Il faut qu'à la fin, mm-hmm. je sache comment je vais dramatiser mon récit. Alors, le produit écrit même était beaucoup...
plus grande qualité.
De plus grande qualité que ça l'aurait été.
Oui, ça reflète tellement qu'est-ce qu'on fait dans la vraie vie aussi parce que ça vraiment, mm-hmm. c'est vraiment une approche qui va vraiment toucher à tous les aspects d'un projet aussi.
Oui.
Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Une question que j'ai pour vous. Alors, là, on parlait de Summer, on parlait de, tu sais, le besoin de technologie et que, tu sais, on utilise la technologie pour soit augmenter, modifier, redéfinir une certaine tâche. Que pensez-vous de ce qu'on parle souvent dans les écoles, du ratio 1-1? 1 à 1 pour les appareils numériques. Alors, dans les...
Moi, j'ai beaucoup d'opinions là-dessus.
C'est ça. Moi, j'en ai deux. Alors, dans le sens que tous les élèves auront, chacun d'entre eux, un appareil
numérique. Un enfant.
Un enfant pour un appareil. Exactement. Donc, le ratio 1-1. Que pensez-vous de ça?
Bien, je trouve ça vraiment difficile de travailler une autre compétence globale qui est la communication et la collaboration
mm-hmm.
si tout le monde est vissé à son appareil.
Mm-hmm.
Alors, souvent, puis là, les gens nous le disent, là, on a un problème de société, les enfants sont dépendants de la technologie mm-hmm. et tout. Puis nous, à l'école, c'est pas ça le but qu'on veut faire. Le but, c'est pas de rendre les enfants dépendants. Le but, c'est de montrer aux enfants comment apprendre à utiliser l'outil qui est un outil super puissant qui est au fond de ta poche.
Exactement.
Parce que oui, c'est beau Instagram, c'est beau ces choses-là, mais on a accès à une dizaine de dictionnaires en ligne. Et comme dans l'instant de le dire, on a accès à des sources et des montagnes et des montagnes et des montagnes d'informations.
Mm-hmm.
Mais l'idée, c'est qu'il faut être capable de filtrer tout ce qui est pertinent. Mm-hmm. Et ça, c'est des connaissances qu'il faut avoir.
Absolument.
Mais sachant que les élèves, dans la majorité des cas, sont 1-1 à la maison,
mm-hmm.
on n'a pas besoin d'être 1-1 à l'école. Ouais. Si on veut que les enfants discutent, si on veut que les enfants fassent preuve de pensée critique dans la pertinence de la mm-hmm. ressource ou de la source qu'ils ont trouvée, il faut qu'ils se parlent.
Mm-hmm.
Ouais.
Absolument. Puis, encore une autre fois, ça revient un petit peu à ce que tu dis souvent. C'est quoi l'intention en arrière de ça?
Ouais.
Notre intention, c'est pas qui s'occupe avec un appareil. C'est pas juste de créer une œuvre, de créer une production qui est différente de ce que tu avais, mais c'est aussi notre intention qui se connecte en personne, qui collabore, qui se communique aussi.
L'intention, c'est jamais d'avoir une classe complètement silencieuse.
Ah, non.
On s'inquiète dans ce temps-là. Non. Mais tu sais, si on pense que, comme dans certains projets qu'on a menés à terme, l'idée, c'était de communiquer. De réseauter, le reach que tu parlais tout à l'heure, d'aller voir ce qu'il y a ailleurs. Mais ça, tout ça là-dedans, là, l'aspect premier, c'est la connexion envers ailleurs, d'aller connecter avec ailleurs. On veut communiquer, on veut faire des liens.
Oui.
Puis ça, ben, c'est
ça. Oui. Puis une partie de la compétence de la communication, c'est pas juste de savoir quoi dire, quel mot utiliser, mais de savoir quel outil utiliser. Parce que, tu sais, j'utilise souvent l'exemple, si je veux inviter ma grand-mère pour le souper, est-ce que je devrais lui envoyer un message sur Messenger? Twitter! Est-ce que je devrais tweeter? Est-ce que je devrais peut-être appeler son landline? Tu sais, comme, il faut savoir même, est-ce que j'ai déjà mentionné, je sais pas, sur le podcast, la fois où ma tante avait écrit sur la page Facebook de mon oncle. Je suis désolée d'entendre parler du divorce de votre fils. C'est toujours vraiment triste quand un mariage ne réussit pas. Parce que, ben, le message était le bon. C'est ça qu'elle voulait dire à son frère. Mais le médium n'était pas le bon.
L'intention était là.
Mais ça, on y réfléchit dans notre processus d'écriture parce que tout dépendant qui est mon destinataire, qui est mon lecteur. Je vais choisir un type de texte en fonction de qui c'est quoi mon intention d'écriture. Même chose avec les réseaux sociaux puis avec la
technologie. Parce qu'on ne met pas sur Twitter ce qu'on met sur Facebook, puis on ne met pas sur Instagram ce qu'on met sur Facebook ni sur Twitter. Alors, ils ont tous leur fonction.
Exactement. Ils ont leur raison d'être. Si celui-là, c'est pour ça. Celui-là, c'est pour ça. Cet outil-là, c'est pour ça.
Mais encore là, ça, c'est les apprentissages qu'il faut que tu aies fait. Ta tante, absolument. Je ne pense pas qu'elle voulait mal faire. C'est juste qu'elle
était non, pas du tout. Non. Et l'autre chose que je voulais mentionner, c'est que je ne sais pas si on a mentionné le fait que parfois, on ne veut même pas être dans la substitution.
Oui.
Il y a des moments encore où on veut du papier
absolument.
Et un crayon. Où on veut un livre imprimé. Et on n'essaie pas de remplacer ces affaires-là avec les outils technologiques. Dans la classe à l'Odyssée de Safran, il y a quelques années, on utilisait les
iPads. Allô, Safran!
Allô, Safran Hodgson! Pour faire des ThingLink avec les élèves à propos des roches sédimentaires, rochignées, ainsi de suite.
Quatrième année.
En quatrième année. Puis, on a vu que dans la classe, il y avait des élèves avec le iPad qui étaient en train de préparer leur produit final, mais il y avait des élèves qui avaient des roches dans leurs mains, qui touchaient les roches. Il y avait des élèves qui avaient des crayons, du papier, des règles, qui faisaient des diagrammes pour se préparer pour le produit final. Alors, il y a tout un éventail de... Parce que le crayon, c'est de la technologie aussi.
Oui.
Mais tu vois, comme moi, je suis quelqu'un qui est, comme les gens, je suis dans la catégorie très techno. J'aime la techno. Mais je reste encore avec mon agenda papier-crayon. Puis les gens se questionnent, mais non, comment ça, toi, t'as ça? Parce que moi, je suis à l'aise avec ça. Il y a certaines choses où, bien au-delà, tu sais, comme il y a des choses que j'utilise plus de crayon là, pour plein d'affaires. Mais pour mon calendrier, mon agenda, mes listes de choses à faire, ça, pour moi, c'est important. C'est de m'écouter.
Suis un peu le contraire de toi parce que moi, la technologie, juste comme technologie, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais jamais aller chercher la nouvelle affaire robotique et l'essayer juste pour l'essayer. Ça m'intéresse
pas. Moi non plus, d'abord.
Mais, comme j'ai dit il y a quelques années, on n'a plus besoin d'être quelqu'un de techno pour être quelqu'un de techno.
Non, c'est ça.
Parce que je pense que nos collègues diraient que je suis très à l'aise, je suis même innovatrice avec la technologie, mais c'est parce que c'est tellement convivial puis intuitif maintenant que même quelqu'un comme moi, je peux voir l'utilité. Quand je vois l'utilité, je suis convaincue, je vais l'utiliser. Puis un jour, quand j'aurai besoin de connaître le nouveau...
Un nouveau outil.
Bébelle, je vais le connaître.
Oui.
Parce que je suis capable. Mais c'est juste parce que je vois que c'est tellement facile maintenant, puis c'est tellement utile.
Puis je te dirais que parce que, ça fait des années que je travaille en équipe avec Jen, et puis, dans tous les projets qu'on a mis à terme ensemble, souvent tout ce qui est la composante technique derrière le projet, ça, c'est moi. Puis tout ce qui est la composante, faire des liens avec le curriculum, ça, c'est toi. On a des forces là-dedans. Mm-hmm. Puis je pense que si tu n'es pas capable de faire des liens avec le curriculum, tu peux essayer d'intégrer tant que tu veux. Bonne chance, mon ami. Ça va toujours être un silo à l'extérieur de ton curriculum. Puis ça, bon, on essaie de travailler à l'encontre de ça parce que on n'a pas de temps.
Ouais.
On n'a pas de temps à gaspiller sur X, Y, Z. Non. Il faut que tout soit inclus. Intégrer.
Encore une autre fois, l'intention, puis je trouve
exactement.
Que...
Exactement.
Puis je trouve que c'est tellement intéressant parce que si on utilise... Tu sais, à chaque fois, souvent, on s'en va dans les écoles, puis on dit, « Ah, écoute, si tu fais ça, mais ça va te servir à ça aussi, alors t'auras pas besoin de penser à une autre méthode d'évaluation. » Parce exact. Que ça s'en va là-dedans aussi. Alors, donc, moi, je trouve ça, puis je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, c'est un petit peu comme vraiment prendre le modèle Sammer, puis après ça, applique-le. Dans chacun dans chaque étape de votre enseignement.
Tu sais à quoi tu me fais penser?
Oui, vas-y, j'ai pas fini ma. Non, ça va. Non, ça va, vas-y.
Tu me fais penser à ton modèle Sammer que tu réappliques. Ça exactement. Me fait penser à la théorie avec les tableaux de correspondance.
Oui.
Tu
oui.
as le curriculum, comment est-ce que tu vas faire, où tu vas aller travailler la communication et la compréhension,
ouais.
où tu vas aller travailler la mise en application.
Oui, oui, oui.
Fait que j'ai l'impression que ce que tu proposes, c'est en fonction avec tout ce qui est technologique, où tu vas travailler la substitution, puis où tu vas aller ouais. travailler la redéfinition.
Absolument, oui, c'est ça. Fait qu'on est en train de faire un jam, là, un jam session là, avec notre modèle, puis nos pratiques
on aussi. On jongle à 18 balles sur un pied avec une chaise sur notre nez.
Ouais, oui. Puis moi, j'ai même la difficulté à jongler 3 balles. En fait, 2. Non, 2.
Okay.
Moi, j'ai juste la misère à jongler mon calendrier.
Qui est en version papier-crayon.
Oui.
Oublie pas.
Oui, absolument.
Oui. Est-ce qu'on a fait pas mal le tour?
On a épuisé le sujet.
Oh, wow. Comme je vous avais dit, ça allait être un épisode tonnerre. Alors... D'autres choses à ajouter?
Non, mais c'est toujours le fun d'en parler, de parler de la pédagogie comme ça.
Oui.
Puis parler de la pédagogie écrapoutillée avec la technologie,
ouais.
Ça c'est vraiment, j'aime ça. Ouais. Je love.
C'est vraiment, on est en train de redéfinir. On est en train de toujours redéfinir comment est-ce qu'on peut discuter de ça, parce que c'est quand même une façon très conviviale de le faire. Puis les autres, à l'autre côté du micro, mais à l'autre côté du micro. À l'autre côté du micro, c'est vous, mais à l'autre côté de l'appareil, qui est nos auditeurs, mais ça leur permet d'avoir une vue sur leur pratique autrement aussi. Alors, sur ce, on vous remercie encore une autre fois de nous avoir écoutés et on vous dit à la prochaine!
Bonne foire, IP tout le monde!
Tout est possible!
Merci d'avoir écouté l'épisode. Vos animatrices sont Jennifer Davies, Mylène Brassard et Vicky Fauteux. Un remerciement particulier à nos directrices des services pédagogiques au Conseil scolaire Viamonde. Le montage est fait par Vicky Fauteux. La musique est créée par Ralph Grant et enregistrée par les Productions Guérin. Les dessins du logo sont créés par Francis Fauteux et notre logo est créé par Mylène Brassard. À la prochaine!